Présenté par Quentin Perquis, un samedi sur deux à 18h sur Radio Campus Paris.
Bienvenue, j'espère que ça va. La semaine est terminée, place au week-end et aujourd'hui on fête ensemble les 25 ans de Radio Campus Paris. Et qui dit 25 ans dit 25 heures de direct toute la journée, déjà depuis 5h30 ce matin et jusqu'à demain. La radio vous offre un concept fou, 25 heures de direct non-stop. Paris Culture, c'est jusqu'à midi. En tout cas, ça fait du bien aussi de se retrouver avant de manger, l'occasion de connaître un petit peu les bons plans pour ce week-end. Petit clin d'œil en tout cas à Mathis et Charlotte qui sont présents, merci à vous d'être venus. Qui sont dans le public. Aujourd'hui, dans Paris Culture, on parle dans la rencontre, on reçoit la DJ et productrice française Sarah Costa. On parle également ciné avec la comédie dramatique Second Tour. On part au théâtre voir la pièce Radicale. On rencontre David Friesman et Marie Le Cam. Et puis enfin, côté musique, on s'intéresse au Daft Punk et à l'album Deux Frères de PNL. Pour suivre en temps réel les actus de l'émission, tout se passe sur mon Insta, Quentin-du-bas Perquis. Tout de suite, en tout cas, si vous êtes dans les transports franciliens, voici l'état du trafic en temps réel. Jingle. Actuellement, si vous êtes sur le métro numéro 3, sachez que le trafic est perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison de difficultés d'exploitation. Sachez également que si vous êtes sur le métro numéro 5 jusqu'au 17/04/2024 prochain, la station Gare d'Austerlitz n'est pas desservie en raison de travaux. Ça, c'est bon à savoir. Également, si vous êtes sur la ligne 9 du métro de la RATP sur Paris, sachez que le trafic est très perturbé sur l'ensemble de la ligne en raison de personnes sur les voies à Grand Boulevard. Sachez également que si vous avez, il y a beaucoup de perturbations aujourd'hui, que si vous êtes sur la ligne numéro 12 du métro, le trafic est perturbé en direction de Méridici à cause d'incidents d'exploitation à Solferino. Voilà un petit peu pour les infos, pour l'infotrafic. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez suivre en temps réel cet infotrafic sur l'application Bonjour RATP ou également sur le site de la RATP/infotrafic. Juste avant de parler des sorties au ciné, on revient ensemble sur une actu de la semaine, une actualité qui n'a pas fait la une, mais qui a toute son importance. Écoutez Jingle. Faut-il boycotter le vin espagnol ou plus largement, faut-il boycotter les vins importés en France ? La semaine dernière, les viticulteurs ont réalisé un barrage filtrant avec pour objectif de contrôler les poids lourds espagnols pour trouver du vin importé en France, mais du vin espagnol. Alors, ces viticulteurs du sud-ouest de la France ont notamment détruit le chargement de 2 camions transportant du vin depuis l'Espagne et brûlé des pneus sur la 9 à la frontière franco-espagnole. Mais alors, comment expliquer un tel acte ? Quelles sont les revendications ? David Dry, le président du syndicat des vignerons des Pyrénées-Orientales, s'est exprimé et soutient, je cite, « On n'a pas d'argent, pas de visibilité, on n'en peut plus, on attend des prises en charge, des aides du type de celles qui ont été attribuées aux éleveurs ». Fin de citation. Pour expliquer ces propos, il suffit d'écouter le président du syndicat des vignerons de l'Aude, Frédéric Rouanet, qui déplore de faibles récoltes à cause de mauvaises conditions climatiques, des charges qui augmentent avec l'inflation, des prix du vin également qui ne suivent pas, etc. Autant de raisons qui montrent la fatigue et la colère des viticulteurs. Alors, plus précisément, et selon l'Organisation internationale de la vigne et du vin, en 2022, la France a importé plus de 6 millions d'hectolitres de vin. Une très grande partie de ces importations proviennent d'Espagne ou d'Italie, et une grande part est destinée à être commercialisée en vrac, notamment en cubi. Alors, parmi les tendances du marché du vin et du spiritueux en 2023, on met en avant également certaines projections de baisse de la consommation nationale jusqu'à moins 25% d'ici 2034, c'est énorme, et des difficultés également actuelles sur les marché export, notamment moins 8% en volume pour les vins et spiritueux français sur le premier semestre 2023. Est-ce que vous aussi vous soutenez l'action de ces viticulteurs et allez changer vos habitudes de consommation pour du vin français ? N'hésitez pas à réagir sur X, anciennement Twitter, avec l'hashtag Pariculture RCP. Si vous souhaitez sortir ce week-end ou dans les jours à venir, voici la sortie ciné. À l'affiche des films sortis cette semaine, la comédie dramatique Second Tour, sortie ce mercredi 25 novembre. 1h37 durant lesquelles on retrouve Cécile de France, également Albert Dupontel ou encore Nicolas Marié. Dans ce film d'Albert Dupontel, Mademoiselle Pauve, journaliste politique en disgrâce placée à la rubrique football, est sollicitée pour suivre l'entre-deux tours de la campagne présidentielle. Le favori et Pierre-Henri Mercier, héritier d'une puissante famille française et novice en politique. Troublé par ce candidat qu'elle a connu moins lisse, Mademoiselle Pauve se lance dans une enquête aussi étonnante que jubilatoire. Voici un extrait de la bande-annonce.
Le téléphone m'a sonné.
Allô ?
Vous avez deviné pourquoi je vous ai fait venir ?
Vous allez reprendre cette campagne ?
Je fais le foot maintenant.
Vous faites le foot parce que vous avez déconné avec la politique.
Je vous demande de faire un triomphe à notre futur président !
Ta gueule, sale connard, bouffe ta merde.
Pardon ?
Les critiques sont plutôt bonnes. Télé Loisirs affirme qu'Albert Dupontel revient avec un film jubilatoire et poétique, à l'intrigue aussi rocambolesque qu'intelligemment construite. Le tout est admirablement servi par un casting impeccable. Fin de citation. CNews ajoute s'il n'atteint pas le niveau d'Au revoir à la haut et d'Adieu les cons, récompensé par 7 Césars en 2021. Second tour mérite d'être vu, tant cette satire est drôle, rythmée, touchante, jubilatoire et servie par un casting brillant. Albert Dupontel justement s'est exprimé au micro de Léa Salamé sur France Inter. Il évoque le message qu'il a souhaité faire passer. Voici.
C'est un commentaire de ce qui se passe aujourd'hui, donc j'enfonce les portes ouvertes avec beaucoup d'enthousiasme. Oui, il y a un problème d'environnement, oui, il y a une information qui est ou continue ou contrôlée, ça dépend comment on formule. Oui, il y a une classe politique qui est un petit peu corsetée, etc., etc. Voilà, maintenant je pointe personne du doigt en particulier. Là-dedans, je raconte vraiment ce que je voulais faire, c'est un roman de gare, au mieux une fable, au pire un roman de gare. J'accepte les deux définitions, il n'y a pas de problème.
Il ajoute également que la politique ne passionne pas la majorité, mais qu'une politique convaincante peut avoir un véritable impact.
C'est vrai que la politique ne me passionne pas et passionne pas beaucoup les gens. On est en déficit de parler politique. Je parlais de Robert Kennedy tout à l'heure. Robert Kennedy, il y a un moment extraordinaire dans ce documentaire et dans sa vie. C'est quand il prend la parole dans un ghetto black à Indianapolis et il parle aux gens avec des mots d'une conviction. Il vient d'apprendre la mort de Martin Luther King et il leur annonce, c'est vraiment la nouvelle la pire qui peut exister à ce moment-là par rapport à cette audience. Et il prend la parole, leur dit voilà, on a tué votre frère, on a tué le mien aussi et c'est un blanc qui l'a tué. Donc c'est pas une question de couleur de peau, c'est juste une absence d'amour dans ce pays, etc., etc. Voilà. Et la seule ville des États-Unis, il n'y a pas eu d'émeute ce soir-là, c'est Indianapolis. Donc la parole politique, quand elle a un poids, quand elle est convaincante, intelligente, elle a un effet.
Enfin, Cécile de France sur la chaîne YouTube de Pâté France qualifie son personnage de loufoque, un personnage qui se rapprocherait d'une héroïne de BD.
Bah, moi, c'est vraiment une héroïne de BD. Il y a quelque chose de à la fois loufoque en elle et en même temps, c'est une vraie. Elle fait preuve de beaucoup de courage et puis c'est ça. Sa colère, c'est son instinct, c'est cette détermination qui la pousse à se libérer des questions imposées par sa chaîne, contre laquelle elle est vraiment très en colère. Et le fait que, voilà, ils partent tous les deux à la découverte de la vérité, parce que, voilà, ils sont sincères et vrais, et qu'elle a un sens profond de son métier, donc c'est... Voilà, ils se lancent dans cette aventure et c'est à travers eux deux que le spectateur va aussi vivre par procuration cette aventure à la découverte du secret caché derrière le visage de ce candidat à la présidentielle. Enfin voilà, elle sent qu'il cache quelque chose. Donc c'est ensemble qu'on va mener l'enquête.
Second tour, un film d'Albert Dupontel, actuellement dans les salles. On revient tout de suite, juste après, J'aurais pas dû, des escrocs, et puis on parlera notamment du rap français avec PNL dans la chronique Sortie Musique par Thomas Kemar. À tout de suite.
Le diable me remet dans le mal, et veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite boue. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas, afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite peau. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des seules à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de Belzébuth. J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouffe extravagante.
Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Je sais que j'en retrouverai pas comme elle. On visait la comète. On avait tout pour être bien. Mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle. On visait la comète. Tu me connais. J'ai déconné. Ouais, c'est toujours la même rancune. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme.
Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bade. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
J'ai déconné, j'aurais pas dû.
Je trahis pas mes peurs.
Jamais de la vie.
Mais je trahissais.
Celle qui quoi
me réconfort.
La seule qui veut bien de moi.
Malgré mes fous.
Je sais que je vais recommencer. C'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est. Quand
le diable me remet dans le mal. Fait que je l'emmène en bas afin de fumer la White Widow. Et qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant je bats. Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite.
Escrou, j'aurais pas dû sur Radio Campus Paris, il est 11h13, j'espère que vous allez bien. Tout de suite, on parle météo, en tout cas je remercie le public qui vient d'arriver sur le plateau de Radio Campus Paris. Si vous êtes à Paris, en tout cas ce week-end, sachez que la météo n'est pas bonne, je suis vraiment désolé de vous l'annoncer. Si vous étiez pas trop en soirée hier soir et que vous êtes lève-tôt, on va dire ce matin c'est plutôt potable. Les nuages sont présents mais il pleut pas, mais en tout cas à partir de 17-18h, 19h, il va commencer à pleuvoir et ce sera le même programme pour demain. 16 pour les maximales aujourd'hui, pour demain ce sera pareil. Dans la nuit ça se rafraîchit un petit peu, 11 degrés. Lundi ce sera pluvieux, 14 pour les maximales. Mardi on aura un petit peu de soleil, faudra en profiter. 16 degrés pour les maximales. Mercredi ce sera de la pluie et ce sera ça jusqu'à la fin de la semaine. L'ensemble de ces prévisions sont disponibles sur météofrance.com. Tout de suite, sortie musique, une chronique écrite par Thomas Kemar. Le groupe de rap français PNL n'en finit plus avec les records. Leur dernier album, Deux Frères, sorti en 2019, est devenu cette semaine l'album de rap français le plus streamé de la plateforme Spotify. Il cumule à ce jour 1,5 milliard d'écoutes uniques. Ce chiffre prouve la qualité et la longévité de cet album, qui abrite de véritables hits comme ODD, À l'ammoniaque ou encore 91, un titre ensoleillé qui avait permis notamment de teaser le projet l'été précédent sa sortie.
J'en place VR par JR, j'suis loin de Dallas. J'crois que l'esclavage, j'revends la planche.
Il faut aussi dire que cet album était l'un des projets les plus attendus de l'année 2019. Il marquait notamment le retour du groupe après plus de 3 ans d'attente et avait bénéficié d'une promo XXL, notamment grâce au clip ODD où l'on peut voir NOS et Ademo assis sur le plus haut point de la Tour Eiffel. Un clip notamment récompensé aux victoires de la musique dans la catégorie création audiovisuelle. Pour faire vivre ce projet dans le temps, le groupe n'a pas hésité à ajouter au fil des années des titres bonus à l'album. Les deux frères en sont aussi aller à la rencontre de leur public au travers d'une tournée et de nombreuses dates en festival. Pour l'heure, très peu d'informations quant à la suite de leur carrière, mais une chose est sûre, de nouveaux records sont encore à prévoir. Les applications liées à la musique ne cessent de proposer de nouvelles fonctionnalités. Nous évoquions il y a quelques semaines l'ajout de playlists intelligentes au service de streaming Spotify. Cette fois-ci, c'est au tour de Shazam, qui propose à ses utilisateurs notamment un nouveau service en lien avec les concerts. Vous la connaissez sûrement, Shazam, c'est une application qui vous permet, lorsque vous entendez une musique, d'en identifier le titre et l'artiste en quelques secondes. Racheté en 2017 par Apple pour 400 millions de dollars, le service de reconnaissance musicale est devenu une véritable référence sur le marché des applications mobiles. Apple annonçait en juin 2021 que chaque mois, ce sont plus d'1 milliard de titres qui sont Shazamés sur la plateforme. Mais face à cette concurrence, Shazam doit réellement se réinventer. L'application propose dès à présent un nouvel onglet concert qui met en avant, comme son nom l'indique, les événements musicaux qui se trouvent autour de chez vous. Alors bien sûr, cette sélection de concerts se veut la plus pertinente possible. Elle se base en fonction de vos recherches sur l'application et de vos préférences musicales. Vous aurez aussi accès à une sélection de titres de l'artiste ainsi qu'au lien vous redirigeant directement vers les plateformes de vente de tickets. Si vous ne saviez pas quoi faire le week-end prochain, Shazam est donc peut-être l'application qui vous vaut pour les idées de sortie. One More Time, c'est la grande rumeur de la semaine. Et si les Daft Punk reformaient une dernière fois pour la cérémonie d'ouverture, les JO 2024? C'était le rêve de Thomas Joly, directeur artistique des cérémonies des JO et paralympiques également de Paris, mais aussi celui de nombreux fans. Et on peut en comprendre cet engouement tant cet événement fait sens. La musique des Daft Punk est légendaire, elle a parcouru le temps et dépassé les frontières françaises pour devenir vraiment une référence du genre électronique. L'excellence française musicale au platine de l'un des spectacles les plus attendus de l'année, 100 ans après la dernière édition en France, eh ben trêve de suspense, les Daft Punk ont malheureusement refusé cette invitation. Thomas Joly, qui était à l'origine de toutes ces vraiment attentes, on peut dire, s'est par ailleurs excusé quant à l'ambiguïté de ses propos. La réponse du groupe était cependant à prévoir quand même, puisque leur séparation en 2021 mettait fin à une collaboration de 28 ans, chacun voulant se consacrer à leur projet personnel et clôturant, on peut le dire malheureusement également, le chapitre d'une histoire à part entière de la musique. La question se pose, quel artiste pourra maintenant générer une hype équivalente à celle des Daft Punk? Je vous laisse répondre à la question. Cette chronique sortie musique a été écrite par Thomas Kemar et je le remercie. On le retrouvera la semaine prochaine et non dans deux semaines. Je vous emmène maintenant au théâtre, on découvre les pièces actuellement à l'affiche. Une sortie sympa et qui change pour le week-end. C'est notre petit rituel depuis le début de la saison. Je vous présente les pièces de théâtre actuellement à l'affiche dans les salles parisiennes, à la rencontre des comédiens et aussi des auteurs des œuvres. Cette semaine, dans notre sortie théâtre, on s'intéresse à la pièce Radical, jouée au théâtre de l'Essayon. Une comédie légère sur un thème qui ne l'est pas du tout, puisqu'effectivement, Paul, 52 ans, a subi une ablation de la prostate. L'annonce de la maladie, l'opération et ses conséquences sont racontées avec humour, par la prostate elle-même. Et oui, l'histoire touchante d'une vie bouleversée certes, mais une vie qui continue. Écrite et mise en scène par David Friesman, on retrouve sur scène Benjamin Alazraki, Xavier Martel et Marie-Béatrice Dardenne. Et j'ai eu le droit, et j'en suis fier, de rencontrer David Friesman. Il nous explique pourquoi avoir fait le choix du comique pour une pièce au sujet si profond.
Effectivement, si vous dites aux gens « venez voir un spectacle sur quelque chose qui n'est pas drôle », et ça va être dur, ça va être très dur, ça va être compliqué. Voilà, là je suis en train de perdre tout le monde, vous voyez. Donc l'idée c'est justement de leur dire non, venez voir un spectacle sur un sujet qui effectivement est un sujet, vous avez dit profond, pourquoi pas. Mais on va alléger le propos, on va relativiser tout ça et on va faire en sorte que vous puissiez, qui que vous soyez et quoi qu'il vous soit arrivé autour de vous, touché ou non par le sujet, que vous puissiez écouter, apprendre, sourire. Et puis sortir en vous disant, bah, finalement, j'ai appris des choses, j'ai souri, je me suis amusé, j'ai été aussi touché, et ça me permet d'en savoir un peu plus sur le sujet aussi. Et je pense que c'est plus simple aujourd'hui de dire ces choses-là avec ce ton-là, que ça touche beaucoup plus les publics. Encore une fois, je donne souvent cet exemple autour d'Intouchables, le film Intouchables. Je pense que quand les producteurs, on leur a dit, alors on va faire un truc sur un gars qui peut pas marcher, qui peut pas bouger, et puis à un moment on va lui verser de l'eau chaude sur la cuisse, ils ont dit, oula, mais vous êtes fous ou quoi? Voilà. Et au final, le film, il a fait un carton, il a fait beaucoup rire les gens, mais pas que, il les a aussi beaucoup touchés, et tout d'un coup, ils ont vu quelqu'un qui était en situation de handicap, et qui était aussi une personne humaine. Et ça a changé beaucoup de choses.
Dans la pièce Radicale, dès les premières secondes, le public est vraiment immédiatement propulsé au cœur du sujet. On voit un homme de dos qui se masturbe. C'est une volonté d'interpeller le public dès le début de la pièce, de vouloir vraiment interroger et faire questionner les spectateurs dès le début.
Alors je reprendrai un léger. On imagine un homme de dos qui se masturbe pour pas inquiéter tout le monde et dire aux gens, vous allez venir voir un spectacle avec quelqu'un qui se masturbe. Alors c'était très à la mode dans les années 60 et 70 dans le théâtre public. Ça ne l'est plus. Ça reviendra peut-être. Donc on imagine effectivement qu'il est en train de se masturber, c'est très court. Oui, je souhaitais interpeller le public et le faire tout de suite rentrer dans le sujet. Montrer qu'on pouvait aller loin avec ce sujet. Et puis, il y a ce côté, effectivement, appeler le public. Mais encore une fois, je pense que c'est une façon aussi aujourd'hui d'appeler les gens. Ils sont habitués. On est dans le zapping constant. Les scènes d'introduction, aujourd'hui, elles nous paraissent longues quand on va voir des classiques. Et on a envie de dire, ouais, c'est bon, on a compris. Voilà, machin, il est avec truc, ok, bidule, vas-y, on y va. Et c'est un peu ça, quoi. On plonge tout de suite dans le sujet. Et tout de suite, on comprend aussi, par l'intervention du personnage qui va relater l'histoire, que ça va être décalé. Et ce décalage immédiat, il permet aussi aux gens de dire, ok, bon, il y a de la distance, je vais pouvoir écouter.
La mise en scène est incroyablement bien travaillée entre les jeux de lumière, la posture de chacun et surtout la personnification d'une prostate. Ça a été une évidence ou vraiment le fruit d'une longue réflexion?
C'est une longue réflexion qui amène à une évidence. Je pense que la mise en scène, merci de dire qu'elle est, elle est très travaillée. Moi, je voulais quelque chose qui ait beaucoup de rythme, qui lâche pas les gens, où les comédiens soient excessivement présents et qu'ils soient tous à égale valeur dans le spectacle. Et d'ailleurs, moi, ce qui me fait vraiment très plaisir, c'est quand j'entends les comédiens sont super. Parce que, un, c'est vrai, je le pense, les comédiens sont super, mais c'est très bien qu'on le voit. Donc, ouais, moi, je voulais quelque chose comme ça qui ait énormément de rythme, où ça s'arrête jamais. Il y a des personnages, voilà, qui, avec trois comédiens, on arrive à faire une multitude de personnages qui passent d'un endroit à l'autre. Avec les lumières, on a vraiment l'impression qu'on est dans un cabinet médical, qu'on est chez la personne, qu'on est dans un jeu télé, qu'on est à l'hôpital. Et. Moi, j'aime beaucoup lorsque la mise en scène, elle fait beaucoup avec peu de choses, peu de moyens. Et là, ça, je crois qu'on a réussi à le faire. En tout cas, c'est de la vie générale, c'est ce que j'entends.
Paris réussi, je vous le confirme. Alors, on assiste à des moments très cocasses, comme par exemple un échange entre un psy et une prostate. C'est ce genre de moment qui aide la pièce à devenir une vraie comédie?
Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être très très malade pour avoir été rencontré des médecins ou un psy. Ça nous amuse de nous projeter dans ces personnages. Et effectivement, une prostate qui parle, bah, tout d'un coup, ça interpelle et on se dit, mais c'est quoi cette idée un peu bizarre? Oui, je pense que la pièce va parfois des moments de grande comédie. C'est le cas avec la séquence qui se passe chez le kinésithérapeute, où là aussi les gens se reconnaissent. D'ailleurs, c'est un moment où les femmes rient plus que les hommes parce que les femmes reconnaissent quelque chose qu'elles ont vécu chez le kiné, alors que les hommes le connaissent généralement moins. Et donc, ouais, c'est ces moments-là qui permettent d'aller à la comédie. Mais c'est aussi. Parce qu'il y a, entre les moments de comédie, des moments d'émotion. Et ces moments d'émotion, lorsque tout d'un coup, vous allez vers l'émotion et vous allez vers quelque chose un peu plus dur, lorsque tout d'un coup, derrière, on vous ouvre quelque chose et on vous dit, ah, ben, finalement, on va rire, on rit d'autant plus, on rit davantage. Et c'est ce que je pense, ce qui se passe dans la pièce, où il y a des moments où, alors, le rire est une émotion, mais où on passe de moments où on se dit, oula, ça peut être compliqué, à des moments où tout d'un coup, on se soulage parce que, waouh, on arrive à ouvrir, on peut se moquer du psy, on peut se moquer des médecins. Comme d'habitude, hein, se moquer des institutions, c'est ce qui fait rire.
Et ça marche. Merci beaucoup en tout cas.
Je vous en prie, merci à vous, ça m'a fait plaisir vraiment. J'étais très heureux. Et franchement, encore une fois, la prochaine fois que vous revenez et que vous faites des interviews, n'hésitez pas. Et si vous continuez à m'interviewer, moi je continue à parler parce que je suis capable de parler comme ça pendant excessivement longtemps.
Et j'aurais adoré pouvoir discuter plus longtemps. Dans la pièce, je l'ai dit tout de suite, on retrouve sur scène Benjamin Alazraki, Xavier Martel et Marie-Béatrice Dardenne, qui est également en alternance avec Marie Le Cam. Elle nous offre aussi une entrevue, elle incarne un rôle pas très commun, notamment celui d'une prostate. Mais est-ce que c'est facile de dire oui pour un rôle si original?
Oui, ça a été très facile, parce que déjà moi j'ai eu la chance de voir le spectacle avant de jouer dedans, puisqu'on est deux prostates. Donc je suis en alternance avec Marie-Béatrice Dardenne. Et donc quand j'ai vu le spectacle, déjà j'ai vraiment été très touchée par ce spectacle et pas que, j'ai beaucoup ri, mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un spectacle aussi avec beaucoup de pudeur, beaucoup de poésie, enfin il y a quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et donc je me suis pas posé de questions en fait. Pour moi cette prostate elle est aussi très féminine, c'est quand même le seul organe masculin. Nous, les femmes, on l'a pas. Et je l'ai appris avec ce spectacle, d'ailleurs. Je savais pas que la prostate était uniquement masculine. Et donc, qu'elle soit représentée par une femme, et aussi, David l'a fait avec beaucoup de féminité, pour moi, c'était une femme prostate, on va dire. Donc, j'ai pas forcément imaginé comme je joue une prostate. Je suis pas en déguisement de prostate. Le costume est très féminin. Et c'est aussi une narratrice. Elle raconte l'histoire. Donc, elle est une prostate, mais aussi conteuse. C'est vraiment la maîtresse de cérémonie de tout ça. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de la rendre un peu mutine, un peu quelque chose qui la rend... Voilà, elle a un petit ton décalé qui la rend un peu prostate, mais je joue la prostate, mais je raconte plutôt l'histoire et je suis plutôt aussi touchée par rapport à ce qui arrive à Paul. C'est comme si voilà, la prostate était un peu humaine quelque part. Voilà.
Vous avez une réplique favorite ?
Ah là là, j'en ai plein. Ah là là,
question. Si on devait en choisir une seule.
Ah là là, c'est trop dur. David, une réplique.
C'est peut-être le petit jeu de mots qu'elle fait sur « Ce n'est donc pas un monde de devenir un continent ».
Ah, oui.
Voilà, peut-être. Peut-être aussi la réplique qu'elle dit à la fin. Vous vous demandez s'il va y avoir un quatrième, un cinquième, un sixième acte, « The show must go on ». Ça, j'aime bien aussi, c'est joli. Enfin, ça me fait plaisir. Aussi,
oui, je suis une glande. Elle est tellement truculente, elle a tellement... puis elle s'initie dans tous les dialogues, dans toutes les scènes où d'un coup elle sort des trucs comme ça qui viennent tous nous saisir, ou puis parfois elle vient aussi dire des vérités qui peuvent être compliquées pour les humains à entendre. Donc elle est vraiment fine, et donc il y en a plein que j'adore.
Donc fan du personnage, très bien.
J'adore ce personnage. C'est un personnage qui en plus peut être interprété de multiples façons. Vu que c'est une prostate, elle peut être très gracieuse, elle peut être très, très terrienne, très aérienne, très fée clochette. Enfin, ça pourrait être un homme. Moi, je trouve ça très, très pertinent que ce soit une femme, parce que justement, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul organe que nous, femmes, n'en avons pas, donc qu'elle soit interprétée par une femme. Mais voilà, ça peut être interprété de plein de manières. Et c'est aussi la grande qualité du texte de David, c'est que c'est un texte... qui se joue avec ta personnalité, avec et puis il faut déjà jouer son texte, c'est un vrai plaisir. Il a une écriture pertinente, drôle, juste, percutante, non, vraiment, voilà.
Avant de jouer la pièce, est-ce que vous pensiez qu'il était possible de rire d'un cancer ?
Oui, je pense qu'avant de dire la pièce, oui, il y a peu de pièces qui parlent de ça. Et encore moins, je pense, du cancer de la prostate. Là, je crois que c'est unique. Mais t'as des femmes qui ont déjà parlé, par exemple, du cancer du sein, avec humour. Même, il y a des pièces, même sur la violence conjugale, où on en parle avec humour. On peut, souvent d'ailleurs, en ce moment, c'est un peu le cas, mais on essaie de justement, quand c'est indigeste, parce que c'est vrai que ça peut être indigeste, bah, d'essayer justement de mettre de la légèreté, de se dire on va au théâtre et on n'est pas là pour voir un truc qui va nous faire pleurer ou on n'a pas envie de le voir en fait.
Votre personnage est en réalité un double personnage et vous l'avez dit tout de suite avec une fonction narrative. Quel est le rôle de la femme de Paul dans l'histoire ? Contrairement à ce qu'on peut penser, son impact sur Paul, est-ce qu'il est aussi discret que le personnage ? Parce qu'en réalité, la femme de Paul, elle est plutôt discrète.
J'essaye de ne pas la rendre discrète, je ne sais pas ce que dirait David. Je crois que c'est une femme qui essaie de prendre sur elle. Qui l'accompagne, qui aime son mari, son homme, et elle, c'est ça que je trouve très beau dans cette relation-là, c'est qu'elle elle prend sur elle, mais elle ne peut que prendre sur elle. Dans ces moments-là, l'autre, il l'accompagne, c'est peut-être après qu'elle a craqué. Ça, c'est pas raconté, mais j'imagine que Lucie, une fois qu'il s'en est sorti, elle a dû... Enfin, j'imagine... que quand tu accompagnes quelqu'un comme ça, voilà, donc forcément elle est discrète, mais elle va pas, elle s'écrouler, elle va pas dire mon Dieu, quelle horreur. Elle accompagne, elle prend sur elle. Moi je trouve magnifique ce personnage.
Merci beaucoup.
Merci à toi.
Radical, une pièce jouée au théâtre de l'Essayon les jeudis, vendredis et samedis à 21h jusqu'au 13 janvier 2024. Restez avec nous, dans quelques instants, nous recevrons Sarah Costa, DJ et productrice française. Elle nous a accordé une interview exclusive à l'occasion du Delta Festival cet été. Vous pourrez aussi retrouver cette rencontre sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. Je vous invite aussi à découvrir l'interview de Sarah Costa qui est réalisée sur Instagram. Rechercher Quentin-du-bas Perki, alors Perki avec un S, on le prononce pas, on a eu le débat tout à l'heure, ou sur TikTok, Perki Quentin, c'est dans l'autre sens. Et puis pour la prochaine demi-heure, je vous donne aussi des idées de sortie pour demain, histoire de ne pas rester sous la couette toute la journée. À tout de suite.
it's on my mind. I guess it goes like na na na.
La rencontre aujourd'hui, c'est avec une passionnée de musique depuis l'enfance, DJ et productrice française. Elle se produit aujourd'hui sur la scène Eden du Delta Festival à Marseille. Bonjour Sarah Costa.
Salut.
Enchantée. Alors merci déjà pour cette interview. C'est un vrai plaisir de pouvoir découvrir l'artiste que tu es devenue. Mais avant tout, quel effet aujourd'hui de se produire en plein cœur de la cité phocéenne à l'occasion du Delta Festival? C'était comment ce show?
Ce show était franchement incroyable et comme je te disais, à partir du moment où j'ai su que j'étais programmée sur le Delta, j'ai pas arrêté de penser à cette date. C'est clairement un rêve pour moi d'être ici et en plus la scène Eden est juste incroyablement belle, donc c'est une chance et j'ai vraiment pris du plaisir aujourd'hui. C'était incroyable, c'était fou.
Quelle émotion qu'on ressent quand on regarde ce public, que de la joie j'imagine.
Ouais, c'est ça, en fait, c'est que de la joie parce que j'ai senti les gens vraiment dans une bonne vibe et bien réactifs. Et j'ai trouvé qu'il y avait déjà du monde aussi, beaucoup de monde malgré voilà, la chaleur et tout. Non, franchement, c'est que du bonheur, donc c'est assez émouvant du coup, ouais.
Se produire en festival, c'est un exercice bien différent de celui des clubs. L'expérience est unique, l'énergie procurée par le public est vraiment aussi très intense. C'est le moyen de tester peut-être aussi la vibe d'un nouveau titre et donc finalement un crash test en live de la réussite d'une production. Est-ce que cette rencontre avec le public, elle est redoutée, ou est-ce qu'on aborde un set avec décontraction pour transmettre l'énergie la plus positive possible?
Ouais, en fait c'est vraiment une balance entre les deux. Après moi j'essaye en tout cas toujours d'aborder le set avec décontraction, avec une certaine pression mais un booster finalement, parce que moi j'ai juste envie de partager voilà, la musique avec les gens et de partager une bonne vibe. Après, effectivement, je joue des sons à moi dans mon set et je vois l'effet qu'ils peuvent avoir sur le public. Donc c'est vrai que c'est une manière aussi de tester et de voir ce que ça donne en direct.
J'imagine que quand on est dans son studio et qu'on le joue en live, ça n'a rien à voir. C'est différent ?
C'est différent. Et en fait, moi, je fais pas ça seulement pour moi, je le fais aussi pour les gens. Et ce qui me plaît, c'est de voir qui vont kiffer derrière. Donc, forcément, non, c'est un bon crash test.
Pour revenir sur tes débuts, tu as intégré le conservatoire très jeune, histoire de te connaître un petit peu plus. C'était une volonté personnelle en lien avec un attachement particulier avec la musique, ou bien le choix de papa-maman de voir son enfant jouer du classique?
Non, en fait, mes parents sont musiciens, donc en effet, j'ai baigné dans la musique depuis toujours, de par ma mère la musique classique, de par mon père plutôt le rock. Et effectivement, moi, c'était un souhait de ma part et j'ai été dans une classe musicale et au conservatoire, effectivement, dès mon plus jeune âge. Mais moi, il faut savoir que quand j'avais pas envie de faire quelque chose, je le faisais pas. Personne ne m'a jamais obligée à rien. Donc du coup, tout ce que j'ai entrepris et tout ce que j'ai fait, c'est parce que je voulais le faire. Voilà, tout simplement.
Par la suite, les goûts évoluent, tu as été attiré par le hip-hop plus tard. Aujourd'hui, tu nous proposes un nouveau single intitulé Dawa et j'aimerais comprendre comment est-ce qu'on arrive à un tel rendu. Le titre est rempli d'ondes positives, très rythmées et presque enivrant. Quand on ferme les yeux, on s'imagine sur une île paradisiaque, bercée par le son du marimba. tu pars d'une feuille blanche ou bien certains artistes t'inspirent pour ce genre de création?
Non, mais c'est, déjà, la question, elle est vraiment... Merci beaucoup, t'as bien cerné l'esprit du titre et je suis contente que ça t'ait évoqué ça, puisque c'est effectivement ça que j'ai voulu faire passer dans ce titre d'Awa. Donc effectivement, tu parlais du hip-hop et c'est vrai qu'à 15 ans, oui, je suis tombée amoureuse clairement de la culture hip-hop et ça a inspiré pas mal de choix musicaux que je fais aussi aujourd'hui, etc. Et c'est vrai que d'Awa, quand j'ai commencé à travailler dessus... ouais, je voulais clairement que ça fasse très summer, très good vibe et entraînant aussi. Et non, après, c'est clair que moi, je suis inspirée par énormément d'artistes, évidemment, pour produire. Et...
Quel artiste, par exemple ?
Il y en a plein, hein, il y en a plein. J'adore Trinix, j'adore Tony Romera. Enfin, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais... Mais oui, je suis inspirée par beaucoup d'artistes et surtout beaucoup de courants musicaux différents.
Yeah. Ça, c'est intéressant. Je voudrais bien savoir effectivement qu'est-ce que Sarah Costa écoute dans sa voiture.
Franchement, dans ma voiture, il peut y avoir les Nocturnes de Chopin ou un gros NTM ou un morceau de Trinix ou un morceau des Ramones. Enfin, franchement, c'est hyper éclectique parce que honnêtement, j'aime tout et ça dépend vraiment du mood dans lequel je me trouve. Donc voilà, et tous ces gens, bah, ils m'inspirent aussi dans ma construction de sets, dans ma construction de morceaux, enfin voilà.
Merci en tout cas pour ce premier échange, c'est la fin de cette première partie. On continue dans un instant avec la suite de la découverte avec Sarah Costa. En présence de Sarah Costa pour cette deuxième partie de La Rencontre. On parlait tout de suite de la manière dont tu abordes la conception de nouveaux morceaux et on sait, la musique est parfois un exutoire pour certains artistes. Est-ce que pour toi, la musique, c'est un moyen qui te permet d'exprimer librement et sans contrainte tes sentiments? Est-ce que la musique est indispensable pour pouvoir s'exprimer pleinement?
Complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mes morceaux, c'est comme des horcrux. C'est des parties de moi. Et en fait, quand je joue sur scène, quand je fais une prod et que la joue devant des gens, c'est une manière de leur parler. Et j'ai des choses à dire et ça passe par ça. Donc oui, c'est une manière pour moi de m'exprimer. Et autant des fois, je peux faire des choses qui sont très légères et autant des fois, je peux faire des choses un peu plus vénères. Voilà, ça dépend aussi du mood, etc. Et il y a vraiment un vrai partage, quoi.
Il y a une renaissance de ta personne sur scène ?
Oui.
Quelqu'un de différent dans la vie de tous les jours?
Bah oui, bien sûr, parce que là, je m'exprime pleinement sur scène, au contact du public, et dans la vie de tous les jours, c'est complètement différent. Ça n'a rien à voir. Oui.
On a parlé tout de suite de Dawa, single incroyable, et je voudrais bien savoir si prochainement on va pouvoir avoir la chance d'écouter un nouveau single.
Excusez-moi, je vous ai gâché votre interview. C'est DJ Benz. Bonjour.
Alors bah oui, évidemment, de toute façon je suis toujours en train de bosser. Donc il y a des choses à venir, il y a déjà la tournée qui continue, hein, avec des dates qui arrivent très prochainement. Et aussi des musiques sur lesquelles je suis en train de travailler et qui vont sortir incessamment sous peu.
Donc on n'aura pas plus d'informations.
Non, parce qu'il n'y a pas de date précise encore, mais il y a des choses sur le feu.
Si je demande Sarah Costa, c'est plutôt été ou hiver, ce serait été?
Ouais, en sachant que en hiver il y a des festivals aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est être en plein air. Et du coup, l'hiver, ça m'arrive aussi de jouer en plein air sur les pistes. Et c'est ça que j'aime bien. En fait, moi, j'aime pas trop être enfermée. Donc, à choisir, je préfère les festivals en plein air.
Surtout comme celui, par exemple, du Delta Festival où nous sommes actuellement, vue sur mer depuis la scène ou pas?
Oui, en effet, vue sur mer. D'ailleurs, j'ai eu envie à un moment donné de me téléporter dedans parce qu'il faisait très chaud, j'avoue. Mais incroyable, la scène Eden, juste magnifique.
J'aimerais bien savoir quels conseils vous pourriez donner éventuellement à ceux qui voudraient se lancer dans la musique.
Bon courage. Non, il faut être passionné. Il faut être passionné et écouter beaucoup de choses, être ouvert à beaucoup de choses et écouter beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique.
Très bien. Merci mille fois. Et puis bon courage pour la suite.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Vous pourrez retrouver cette rencontre avec Sarah Costa sur Spotify en recherchant le nom du podcast qui s'intitule très simplement La Rencontre. On se retrouve tout de suite avec la chronique Promesse d'avenir. Et puis tout de suite, on s'écoute Bills sur Radio Campus Paris. c'est Bills sur Radio Campus Paris. Il est 11h48, j'espère que ça va. Tout de suite, et voici maintenant notre chronique promesse d'avenir, puisque les innovations du monde moderne, est-ce qu'elles vraiment, elles améliorent notre futur et notre quotidien? Alors, dans cette chronique, on parle réellement et généralement des innovations qui pourraient avoir un impact surtout positif sur l'environnement et les sociétés en général. Entre 19 millions et 23 millions de tonnes de plastique arrivent chaque année dans les eaux de la planète. Ça, c'est un fait, on le sait. Diane Beaumenet-Joannet, responsable plaidoyer pour l'ONG Surfrider Foundation Europe, met en garde lors d'un passage sur BFM TV. Elle affirme qu'on a 5000 milliards de plastique qui flottent dans l'océan actuellement et que 90% des espèces sont contaminées à la pollution de plastique. Alors, on s'en doute bien, si les espèces sont contaminées, nous le sommes aussi. Et c'est exactement ce qu'ajoute la responsable plaidoyer. Je cite, « On va intégrer du plastique, des nanoparticules de plastique, invisibles, qui peuvent avoir des conséquences pour la santé. » Fin de citation. Heureusement, et c'est tout l'objet de cette chronique, certaines innovations vont dans le bon sens et proposent des solutions innovantes pour endiguer ce genre de dérive. Au cours des 5 dernières années, Great Bubble Barrier a créé une barrière de bulles et un dispositif optimal et surtout économe aussi en énergie. Alors, le concept, il est très simple. Le concept est le suivant. C'est ramener le plastique à la surface du cours d'eau grâce à une barrière de bulles, tout simplement, qui, au passage, réoxygène le milieu, donc, et qui permet de récupérer les déchets ainsi remontés pour empêcher d'arriver jusqu'aux océans. Alors, l'idée consiste à créer un rideau en projetant des bulles d'air émises depuis un tube perforé placé au fond du fleuve ou du canal. Le rideau de bulles crée un courant ascendant qui dirige les plastiques vers la surface. Et puis, cette barrière de bulles, elle est placée en diagonale dans la rivière, donc le flux naturel pousse directement en fait les déchets de plastique sur le côté et dans le dispositif de captage, puisque oui, il y a un dispositif de captage pour récupérer les déchets. Alors, ces déchets sont donc collectés et peuvent même être pour certains recyclés. Et c'est tout le bonheur que je leur souhaite à cette entreprise, c'est de réussir leur pari. N'hésitez pas à commenter cette innovation sur X, anciennement Twitter, avec le hashtag PariCultureRCP. Tout de suite, sortir à Paris. À Paris, comme chaque semaine, de nombreuses sorties s'offrent à vous, notamment le Gros Marché, c'est ce qui se fait de mieux en matière de chine vintage et seconde main, et c'est à la Bellevilloise dans le 20e. Fripe, mais aussi bijoux, upcycling, illustration, céramique, plus d'une trentaine d'exposants seront de la partie jusqu'à demain, dimanche 29 octobre, dont un grand nombre de créateurs et créatrices aux œuvres réellement uniques. Pour ambiancer donc le week-end, il y aura aussi un loto-drag durant cet événement, des ateliers de la cartomancie. Alors, la cartomancie, et je vais demander à ma réalisatrice, est-ce que tu sais ce que c'est que la cartomancie? Tu sais ce que c'est? Incroyable, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est un art divinatoire utilisant le tirage des cartes, tout simplement. Du nail art également, des flash tattoos, des DJ sets, enfin bref. Vous avez de quoi vous amuser. C'est le Gros Marché à la Bellevilloise dans le 20e jusqu'à demain. Également, si vous voulez sortir dans Paris, un événement pop culture, le Paris Manga 2023. C'est le premier festival parisien de pop culture. Le Paris Manga et FC Show est de retour au Parc des Expositions de Villepinte dans le 93. Jusqu'à demain, le meilleur de l'univers manga vous y attend avec de nombreux événements, comics, jeux vidéo, cinéma, séries, culture web, animé, cosplay également ou encore arts martiaux avec l'opportunité de rencontrer plus d'une trentaine, une centaine pardon, d'invités, youtubeurs, stars de ciné, de séries même, ou maîtres de l'animation japonaise. Donc le Paris Manga 2023, c'est au Parc des Expositions de Villepinte, dans le 93, jusqu'à demain. Et puis enfin, dernière petite idée, et on en parlait dans l'émission précédente sur Radio Campus Paris, c'est le Salon du Chocolat. Le Salon du Chocolat est de retour à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 1er novembre à la Porte de Versailles. Au programme, défilé de robes en chocolat, sculptures monumentales, bûches gourmandes et florilèges de chocolat et pâtisserie. Et si vous êtes gourmand ou juste simple curieux, eh ben moi je vous donne rendez-vous au Salon du Chocolat. J'ai déjà le ventre qui gargouille. Franchement, je vous donne rendez-vous là-bas au Salon du Chocolat jusqu'au 1er novembre à la Porte de Versailles. Et puis maintenant, je vais teaser un petit peu ce dont on va parler dans deux semaines, puisqu'on se retrouve pour la prochaine émission dans deux semaines. On parlera notamment dans cette chronique idée de sortie de l'escape game Tom Tom et Nana, mis en place par l'entreprise Bayard Jeunesse. Et exceptionnellement, dans le public, on avait tout juste deux personnes qui ont eu l'occasion de tester cet escape game. Vous en avez pensé quoi de cet escape game? C'était bien?
Eh bien, Moi-même et Charlotte, en sommes de grands amateurs d'Escape Game. Okay. Et je laisse Charlotte nous dire ce qu'elle en a pensé.
Et bonjour, pardon, je t'ai même pas demandé ton prénom.
Je m'appelle Mathis.
Enchanté.
Bonjour.
Très bien. Et toi ?
Bonjour, donc moi c'est Charlotte. Donc avec Mathis, on a adoré cet Escape Game parce que c'était un vrai retour dans l'univers de Tom Tom et Nana qui a bercé nos enfances.
C'est vrai, tu fais souvent des Escape Games de base ?
Ouais, très souvent. Avec Mathis, on en fait vraiment très souvent.
Okay.
Et lui était particulièrement réussi parce que du coup, on est en immersion totale dans l'univers de Tom Tom et Nana. Et il y a une petite surprise à la fin pour les gourmands qui est vraiment géniale.
Alors on tease pas trop. En tout cas, merci d'avoir répondu présent pour pouvoir un petit peu parler de cet Escape Game. Rendez-vous dans deux semaines pour en savoir plus. L'Escape Game Tom Tom et Nana. Tout de suite, on s'écoute Bizarrap, Quevedo, un son que j'aime particulièrement. Je vous demande de l'écouter, je vous demande de chanter. C'est en espagnol. Si vous ne chantez pas l'espagnol, c'est pas grave, apprenez l'espagnol. Quevedo de Bizarrap sur Radio Campus Paris.
Llega el club con el combo, rápido la vi lejos. Se pintaba los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Fecha y hora y te paso a buscar. Yo le digo a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Ruido de botellas de champán de las copas al brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate. El traje combina con la Mercedes de granate. No hay otra forma que ellos traten. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B-Side. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos. Fuera al apartamento en privado, me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido. Que ya no quiero nada que no sea contigo.
Rap Quevedo sur Radio Campus Paris. J'espère que vous allez bien. Il est 11h58, quelques secondes avant midi. En tout cas, aujourd'hui, on avait du public dans l'émission. Bonjour.
Bonjour.
Merci en tout cas d'être venu. Alors, vous êtes qui ? Comment vous appelez ?
Alors, moi, c'est Gabriel.
Très bien. Et toi, petit loup ?
Moi, je m'appelle Lionel et j'ai 10 ans.
Vous avez quel âge ? 10 ans et ?
14 ans.
Vous voulez devenir journaliste ?
Moi, personnellement, oui. Je sais pas trop pour Lionel, mais.
Moi, je préfère peut-être devenir sportif plutôt.
Ok, tu veux devenir quoi ?
Footballeur
professionnel. Tu fais du foot dans la vie de tous les jours ?
Oui, depuis presque 6 ans.
Ok, trop bien. Alors, mais vous avez l'habitude du micro, je crois, parce que vous venez d'Allemagne, si j'ai tout compris, oui. Et vous faites de la radio.
Oui, effectivement, on est dans une radio franco-allemande, en fait, à Darmstadt, donc vers Francfort, pour okay. les gens qui connaissent à peu près l'Allemagne, même si je ne sais pas si c'est le cas de beaucoup de gens, c'était pas mon cas en tout cas,
okay.
avant que j'aille vivre. Et donc on est dans une petite chronique de 30 minutes dans une émission franco-allemande. Donc.
Trop bien.
Allez, ça s'appelle Aller-retour,
okay.
de 19h à 21h je crois.
Ok, incroyable. Et toi aussi t'as ta petite chronique?
Moi?
Ouais.
Bah moi ça fait pas trop longtemps que je suis dans le groupe quand même, j'ai fait que deux émissions, mais je commence à m'habituer quand même, j'étais une fois dans le studio.
Ok.
On
ah, génial.
On est tous les deux assez nouveaux dans la rubrique, mais on c'est tout au début de l'émission.
Ok, très bien. Et ben en tout cas, merci beaucoup d'avoir d'être venu témoigner aujourd'hui dans l'émission. Je te souhaite du succès dans le foot et je te souhaite du succès dans le journalisme. L'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à Elodie à la réalisation aujourd'hui. N'hésitez pas à suivre également l'actu de Paris Culture sur les réseaux sociaux, sur Instagram Quentin-Perquis. Je vous parle de tout ce qui se passe dans l'émission prochainement. On se retrouve nous dans deux semaines, samedi 11 novembre à 18h. Je rends l'antenne. Je suis pile à l'heure, je suis quasiment en retard. C'est les 25 ans de Radio Campus Paris. On les fête et ça se fête toute la journée en direct, 25 heures de direct. Passez une belle journée sur Radio Campus Paris. Bye bye.